IDFM Radio, le média valdoisien.
Bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes, en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Merci d'être à notre écoute pour ce rendez-vous de l'économie en direct. Ensemble pour 90 minutes, ce matin, mardi 21 mai 2024, nous allons échanger en toute bienveillance et parler de plusieurs sujets, dont les prochaines portes ouvertes de la MDPH dans le Val-d'Oise, d'ostéopathie et gérance de cabinets dédiés et de la richesse de notre langue française. Autant de sujets pour lesquels nous arriverons bien, j'en suis sûre, à trouver des transversalités, comme très souvent dans cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Boisseau, vice-présidente du département du Val-d'Oise, déléguée à l'autonomie. Bonjour madame.
Bonjour Jacqueline.
Vous me permettez de vous appeler Laetitia ?
Avec plaisir.
Donc Laetitia, je suis très contente de vous accueillir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec nous ce matin pour aborder plusieurs actions et missions de la MDPH, maison départementale pour les personnes handicapées, et découvrir tout ce que le département du Val-d'Oise a mis en place pour accompagner au quotidien ces personnes handicapées. À vos côtés, Audrey Kukurutz, hein, bonjour, ou chez Mama, qu'est-ce que je dois dire Audrey? Qu'est-ce que vous préférez?
Kukurutz, c'est bien.
Kukurutz, très bien. Ostéopathe et gérante de Kéo Santé. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Merci pour votre venue dans nos studios. Avec nous, nous allons mieux découvrir ce métier que vous exercez avec passion. Et bien évidemment, nous avons hâte de savoir pourquoi. Et à vos côtés, Elodie Defin, fondatrice de Orthodéo, entreprise de formation FLE, français langue étrangère, formation orthographe, lectrice, correctrice. Bonjour Elodie.
Bonjour Jacqueline.
Je suis un peu bafouillée hein, pour dire le FLE.
Pas de souci.
Je suis ravie de vous retrouver dans cette émission. Vous nous direz comment va votre activité depuis votre dernière venue et vous nous parlerez d'un atelier orthographe qui va avoir lieu dans le Vexin dans 2 jours. Mais tout de suite, on n'en dit pas plus. Hein. On laisse planer le suspense. À nouveau, bienvenue et merci mesdames de participer en direct à ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Et on ouvre ces interviews avec vous, madame Laetitia Boisseau, donc vice-présidente du département du Val-d'Oise, déléguée à l'autonomie. Alors, la première question que je pose souvent à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont il ou elle le souhaite.
Très bien. Donc, Laetitia Boisseau, je suis une élue depuis 2014 à la ville de Taverny et depuis 2015 au département du Val-d'Oise, dans la compétence sociale, plutôt les politiques pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap.
Très bien.
Pour résumer simplement.
Oui, et donc vous êtes vice-présidente du département du Val-d'Oise déléguée à l'autonomie depuis
2021,
très bien. Alors vendredi prochain, 24 mai, se tiendront les portes ouvertes de la MDPH, hein, cette maison pour départementale pour les personnes handicapées. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une structure qui permet vraiment de rationaliser le parcours du combattant lorsqu'on est handicapé. Est-ce qu'on peut dire ça?
Tout à fait. Ces journées de sauvegarde, c'est vraiment c'est une liaison directe avec nos usagers qui sont en situation de handicap et de leur permettre de mieux comprendre, par exemple, le fameux dossier MDPH qui les remplit, quels sont les acteurs qui le remplissent. On a aussi de nombreux stands avec des associations et on a aussi des stands des agents du département, notamment sur les droits. Alors, il y a beaucoup de questions sur les droits. Cette porte ouverte, effectivement, a lieu vendredi 24 mai, vous venez de le dire, de 13h30 à 17h30 à l'hôtel du département du Val-d'Oise. Et il faut s'inscrire sur mdph.valdoise.fr pour s'inscrire. C'est vraiment une journée, plutôt une après-midi, je dirais, très, très dynamique. En fait, ces portes ouvertes ont été créées depuis 2017. Mais depuis le Covid, des années Covid, on a un vrai engouement.
Oui, oui.
Et on reçoit près de 400 personnes.
C'est ça. J'ai vu que l'année dernière, vous aviez reçu 400 personnes, ce qui... Donc, par rapport aux chiffres de 2017,
C'était encore mieux.
Oui, oui.
Et il faut savoir, dans le département du Val-d'Oise, on a près de 94 000 personnes qui sont bénéficiaires d'un droit ouvert à la MDPH.
Ça représente
à peu près 7,4% de la population du département.
C'est ça. Et donc, vous dites qu'il va y avoir des stands thématiques sur les droits des personnes. C'est ce que viennent chercher surtout les visiteurs.
Tout à fait. Les usagers qui viennent ou les professionnels, mais on va parler des usagers, ils cherchent toujours plus d'informations, mieux comprendre leurs droits, comprendre aussi comment se décide un dossier par rapport à toute une évaluation. Et donc, ils sont très, très curieux.
Oui.
Et très ouverts, très curieux. Donc, on est là pour les accueillir. C'est vraiment l'objet de cette journée.
Oui, parce que je crois aussi qu'au-delà des handicaps visibles et malheureusement lourds, il y en a parfois invisibles. Et cependant, ils sont bien là. Et ce qui est important aussi, c'est de connaître ses droits tout au long de sa vie, lorsque malheureusement on souffre de handicap.
Tout à fait. Et je rajouterais aussi qu'on a des liens étroit avec les associations et justement, par exemple, une association dans le champ des maladies autour de la santé mentale.
Oui, oui, oui.
Donc, voilà, ça, ce n'est qu'un exemple, hein, puisque les associations sont extrêmement nombreuses et justement,
et
elles sont représentées justement sur les stands lors de ces portes ouvertes.
Oui, et probablement, ça doit aussi ouvrir d'autres horizons à plein de vos visiteurs également.
Tout à fait. Et puis, l'information, c'est aussi le bouche à oreille.
Hein.
On a toujours quelqu'un dans sa famille, dans son entourage qui réclame des informations. Donc, on est là pour ça. Voilà, c'est leur journée.
Je rappelle, mais on le rappellera encore tout au long de l'émission. Donc, ces prochaines portes ouvertes auront lieu ce vendredi 24 mai de 13h30 à 17h30 à l'hôtel du département au bâtiment F. Et il faut absolument s'inscrire si vous voulez participer à ces portes ouvertes. Laetitia Boisseau, on va peut-être aborder maintenant les actions du département en faveur du handicap. Je crois qu'il y a un schéma départemental qui a été créé récemment, si vous voulez.
Tout à fait. Il y a un schéma qui s'est construit sur une période d'un peu plus d'un an. Et en novembre dernier, 2023, les élus du département que nous sommes ont voté le nouveau schéma départemental pour la période 2023 et jusqu'à 2028. Donc, c'est un nouveau schéma qui vraiment se repose sur une approche sur des parcours de vie. Voilà, on a mis l'accent sur les parcours de vie. Et en fait, on veut considérer toutes les personnes en situation de handicap, vous parliez même des handicaps invisibles, quel que soit aussi l'âge des personnes, dans toutes les sphères de leur vie, dans tous les moments de vie, et surtout apporter une attention toute particulière aux étapes charnières, comme le passage à l'âge adulte, ou le passage à la retraite
ou le grand âge.
Parce que c'est des questions qui sont très très fortes des usagers, en tout cas de la MDPH et des personnes de situation de handicap en général.
Et vous pourriez nous donner un exemple d'une action concrète?
Une action concrète qui est vraiment importante selon moi, c'est vraiment le réseau de référents handicap se développe toujours de plus en plus. Et le référent handicap, c'est créer un lien entre la maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH, et le tissu associatif, mais aussi avec les acteurs qui souhaitent avoir des informations sur les interactions avec la maison départementale, ou par exemple les CCAS qui veulent des compléments lorsqu'un dossier à remplir est un peu complexe. Voilà, ça c'est un bon exemple. Et en cours, et ce qui est nouveau et aussi en cours, c'est un réseau de référents sport, culture, loisirs, handicap, pour justement faciliter les interactions avec les clubs sportifs, hein, puisque nous sommes l'année des Jeux Olympiques en France et Paralympiques, des acteurs de la culture et aussi des structures de loisirs.
Alors, vous l'avez dit, ce schéma est élaboré grâce à l'implication des personnes handicapées, leurs familles, les associations, les professionnels du secteur. Ça s'est passé autour de... Vous avez fait... Il y a eu des tables rondes. Comment
Alors, ça s'est très bien passé. On a été accompagnés par un cabinet, mais surtout, on a vraiment dispensé la parole sous plusieurs formes, et notamment sous forme d'ateliers. On a réalisé, après tous les ateliers sur les différents thèmes, je ne vais pas les détailler parce que sinon je m'en ai pour toute la matinée, on a rédigé près de 31 actions en fiches actions, hein, pour vous dire. Ces fiches actions, il faut le dire et le souligner, qu'il y aura un suivi régulier pour voir comment les choses évoluent. Voilà. On a, pour nous, les défis, c'est vraiment aussi répondre aux projets de vie, parce que chaque projet de vie, quel que soit l'âge, est vraiment singulier. Voilà.
Et donc vous êtes, nous l'avons dit, hein, vous êtes vice-présidente de cette maison départementale déléguée à l'autonomie, parce que je crois comprendre que ce qui reste primordial, c'est d'encourager autant que possible l'indépendance de la personne handicapée. C'est ça votre objectif.
Tout à fait. Et pour cette indépendance, il faut lui donner les moyens d'action, mais surtout l'information. Par exemple, pour trouver un sport adapté, quel que soit l'âge, pour répondre aussi à l'entourage, aux aidants qui cherchent aussi des solutions pour accompagner la personne en situation de handicap. Voilà, c'est tout cela. Et l'idée, c'est de vraiment réussir une coordination autour de l'usager la plus harmonieuse possible.
Et c'est en ça que vous allez tenter de poursuivre ces personnes pour voir l'évolution de cette autonomie.
Tout à fait. On va suivre les fiches actions dont je parlais effectivement tout à l'heure. Et également, nous avons un groupe usager qui est là aussi pour porter la parole de l'usager.
Oui, très bien.
Donc tout ceci est orchestré donc à différents niveaux de la vie de la MDPH.
Merci Laetitia Boisseau. Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale et puis on revient à cette interview. À tout de suite.
Tonight in the tears you're crying. You can love me unless you love you too.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Laetitia Boisseau, vice-présidente du département du Val-d'Oise, déléguée à l'autonomie, et Audrey Cucurutz, ostéopathe et gérante de Kéosanté, et Élodie Defin, fondatrice de Orthodélo. Alors, Madame Laetitia Boisseau, on vient de parler de ces portes ouvertes hein, qui vont avoir lieu le 24 mai, donc vendredi. J'aimerais que vous nous parliez ce matin aussi de, il y a un tiers-lieu inclusif de la communauté de communes de Carnel, Pays de France, qui vient d'être inauguré, c'est ça?
Tout à fait, c'est un très très beau projet. En fait, le département est facilitateur hein, pour adapter les besoins de chacun, mais aussi les besoins des territoires. Et justement, c'était une réponse pour ce territoire, donc... la communauté de communes de Carnel Pays de France, où il fallait répondre à finalement un territoire où manquent les services médicaux, paramédicaux. Oui. Il y a une vraie carence dans les communes rurales. Et cet espace vraiment apportera un vrai service et une vocation vraiment à être un pôle d'attractivité aussi pour une grande partie des Valdoisiens. Donc le département a abondé à travers un fonds qui s'appelle Val-d'Oise Territoire. En fait, c'est une aide aux communes et on a aidé ce beau projet à hauteur de 3,45 millions. Il y a trois pôles d'activité. Je détaille un petit peu parce que c'est assez incroyable. Trois pôles d'activité sur un terrain de plus de 4 700 m² à Vilaine-sous-Bois. Il y a un pôle santé qui accueillera une micro-crèche inclusive pour les enfants porteurs de handicap, un espace paramédical de psychomotricité, d'ergothérapie, de psychologie, tourné vers l'enfant, le handicap et aussi les personnes âgées, avec même une salle de bien-être, une salle snowzelaine ouverte au public en Val-d'Oise et une pouponnière. Le deuxième pôle, c'est le pôle alimentation. Il y aura donc à disposition du public un restaurant inclusif pour vraiment transmettre aussi le savoir-faire culinaire à travers des ateliers pédagogiques. Hein. Puis on est au pays de la France. La France est un pays gourmand, hein, la cuisine. Donc ça, c'est très important. Donc auprès de jeunes Valdoisiens, il y aura aussi une boulangerie-pâtisserie avec des produits venant de Moulin de Char et un hall qui pourra accueillir un marché de producteurs locaux. Et le troisième pôle culture, je vais essayer de ne pas être trop bavarde, pourra également utiliser le hall convertible en salle polyvalente pour accueillir toutes sortes d'animations culturelles, des expositions, aussi un espace de travail coworking, une librairie jeunesse qui emploiera du personnel porteur de handicap cognitif, hein, on parlait tout à l'heure de handicap moins visible, et qui proposera aussi des conférences. Donc voilà, très très beau projet.
Donc vraiment un espace.
Bravo à la communauté commune de Carnel, Pays de France.
Oui, vraiment un espace pour le bien vivre ensemble, hein, on peut le dire.
Exactement.
Je voudrais justement peut-être donner la parole à Audrey, parce que Audrey, vous avez une activité qui rejoint un petit peu ces handicaps. Hein, oui. Si vous voulez nous en dire un mot avant de vous interviewer plus longuement tout à l'heure.
Pas de problème. Donc, du coup, en plus d'être ostéopathe, je suis également praticienne en réflexes archaïques.
Oui.
Bon, les réflexes archaïques, ça ne parle pas à grand monde, donc je vous propose de le définir.
Oui.
Ce sont tous les mouvements involontaires et incontrôlables du fœtus par les réflexes intra-utérins qui vont être responsables des coups de poing, des coups de pied dans le ventre. Puis, une fois la naissance passée, tous les mouvements répétitifs que fera le nourrisson lui permettra de connecter ses neurones, façon très simplifiée, hein, je précise, pour être en mesure d'enchaîner les étapes de motricité, donc la tenue de tête, le retournement, le ramper, dans les 12 premiers mois de sa vie, en théorie. Et par la suite, ses réflexes vont évoluer en réflexes de vie qui pourront permettre à l'enfant et à l'adulte d'avoir des mouvements fluides, la course, le saut, tous les mouvements en fait, et surtout lors des apprentissages, parce que c'est important de rappeler que toutes les problématiques d'apprentissage, ce sont en réalité des réflexes non intégrés.
D'accord. Voilà. Et donc c'est là où vous intervenez
en fait,
auprès de personnes handicapées qui n'ont pas ces réflexes, hein,
alors,
c'est ça
les...
qui n'ont pas su les développer.
En fait, c'est ça.
Très souvent,
c'est soit qu'il y a eu une naissance très compliquée qui a gêné l'intégration des premiers réflexes, soit une grossesse très compliquée. Bref, il y a toujours eu un petit souci au niveau de l'intégration des réflexes qui peut expliquer pas mal du handicap.
Et votre spécialité peut arriver à est-ce qu'elle guérit ou est-ce qu'elle soulage?
Alors non,
on guérit pas.
Non, faire croire qu'on guérit le handicap, non. En revanche, on accompagne énormément, vraiment, même des infirmes cérébraux qui peuvent avoir de beaux résultats. En tout cas, ceux qu'on leur aurait jamais promis. Donc il y a quand même de belles évolutions. Et là où vraiment c'est hyper efficace, c'est dans toutes les problématiques d'apprentissage, troubles du spectre autistique. Tous les 10.
Oui, tous les 10.
Hyperactifs, etc. Ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper efficace. Voilà.
Je donne aussi la parole à Élodie parce que en fait, Madame Laetitia Biasso, on sait que vous n'allez pas rester jusqu'à la fin de l'émission, donc je voudrais juste que mes deux autres invités puissent un petit peu échanger avec vous. Élodie, je sais que dans vos projets, vous avez aussi l'intention de mettre une parenthèse inclusive, en tout cas. Enfin, parenthèse, c'est peut-être pas le bon mot.
Oui, alors effectivement, donc moi je suis Élodie Defin et je suis formatrice en FLE français langue étrangère et en orthographe. Et je suis lectrice correctrice, mais c'est vrai que bon, lectrice correctrice, c'est un travail plus individuel. Là, pour rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant, l'orthographe, on ne peut pas dire que l'orthographe soit un handicap avec un grand H, malheureusement, il y a beaucoup plus grave que ça. Ceci dit, pour les personnes issus de l'immigration ou qui ont simplement des difficultés avec l'orthographe, peut-être pour des raisons cognitives dont on parlait à l'instant, c'est vrai qu'il est intéressant, même adulte, d'avoir de pouvoir suivre une formation et de pouvoir reprendre un petit peu, réapprendre les règles et se sentir plus légitime à écrire. Et du fait, notamment les personnes qui prennent, qui ont la chance d'avoir une évolution dans leur entreprise, quand elles sont bloquées par l'orthographe, c'est franchement dommage parce que ces personnes sont parfois excellentes. Bien souvent, d'ailleurs, excellentes dans leur métier manuel, le fait de faire des devis avec des fautes, ça peut mettre en péril l'image de l'entreprise et du coup, ça les freine un peu. Voilà. Donc moi, j'interviens à ce niveau-là, modestement, avec un petit H de handicap.
En vous écoutant, Élodie, je sais pas si vous avez vu ce film, j'ai pas le titre en tête, mais avec Michel Blanc, où il est très désagréable, enfin, il est odieux, et en fait, il ne sait pas écrire. Et on découvre cette faille et voilà, du coup il devient, enfin on a vraiment une vraie sensibilité vis-à-vis de lui, quoi.
Ce sont des personnes qui ont des difficultés.
Et alors, c'est la rencontre entre lui et puis la personne qui va lui apprendre à écrire. Donc
c'est passionnant.
Un très beau film.
Ouais. Et c'est passionnant de pouvoir donner et aider son prochain.
Complètement.
C'est ce qui me fait vivre, moi. Ça me fait vibrer, j'adore.
Ouais. Alors Laetitia Boisseau, je reviens à vous parce que parmi toutes les nouveautés aussi dont vous voulez nous parler ce matin, il y a la création des communautés 360. Donc expliquez-nous ce que sont ces communautés 360.
C'est presque nouveau. En fait, ça a été créé, donc c'est le président de la République qui a annoncé la création de ces communautés 360. Et c'est né en 2020 pendant le Covid. Et donc la communauté 360 du Val d'Oise, elle est portée par l'Agence régionale de santé, l'ARS, le département, la MDPH, les organismes gestionnaires, donc on a la Mutuelle à Mayotte, on a aussi EVA, et donc c'est un véritable exemple
dans l'Hexagone, en France,
c'est assez incroyable. En plus des acteurs, on a un comité territorial qui réunit la CEPAM, l'éducation nationale, la préfecture, la CAF, et en fait tous les acteurs médico-sociaux et les acteurs de droit commun peuvent rejoindre cette dynamique. C'est ça qui est intéressant. Et les objectifs de cette communauté 360, c'est déjà assurer la réponse à un numéro unique qui est le 0800 360 360, c'est soutenir la participation, l'autodétermination, la paire aidance, c'est nourrir la transformation de l'offre par des solutions innovantes, puisque voilà, on a des idées en France, c'est permettre l'évolution de réponses communes, coordonnées, voilà. Et c'est aussi une dynamique d'aller vers, c'est voilà.
Sur le territoire. C'est ça, de toujours dans le
une réponse accompagnée.
toujours avec dans l'esprit faciliter l'accès à ses dossiers et puis connaître ses droits pour quand on est handicapé, parce que je crois, vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais souvent justement les personnes handicapées se plaignent de la longueur des démarches administratives. Oui, qu'en est-il aujourd'hui?
C'est toujours compliqué. Alors j'ai parlé tout à l'heure des référents handicap qu'on trouve chez les acteurs, notamment pour justement accompagner, remplir ce dossier MDPH, ce dossier qui est un CERFA, qui n'a pas été créé par la MDPH, c'est un CERFA administratif. Donc effectivement, ça c'est très important. Également la complétude des éléments, parce qu'en fait il faut toujours beaucoup d'éléments. On en parlait avec mesdames tout à l'heure. Souvent il manque des bilans, etc. Et voilà, donc tout ça c'est un peu complexe.
C'est ça, oui.
Et puis quand on dépose son dossier, on pense avoir une réponse tout de suite. Ben non, on n'a pas une réponse tout de suite. On est là pour les aider, pour qu'il y ait une meilleure complétude du dossier, pour expliquer les choses. Et on est toujours dans une démarche d'accompagnement, en fait. C'est ce qu'on disait, l'aller vers.
C'est ça. Les deux innovations dont vous venez de nous parler, là, la création des communautés 360 et puis un tiers-lieu, ça doit forcément faciliter ce genre de démarche.
Tout à fait. Pour le tiers-lieu dont je parlais tout à l'heure, on est vraiment dans une zone qui est pas une zone blanche, mais qui est plus compliquée. Puis on est de toute façon en désertification médicale et il est très compliqué pour les familles déjà d'avoir même un médecin généraliste, et alors pour les spécialistes n'en parle pas, pour les pédopsychiatres c'est très compliqué, notamment pour les enfants, pour accompagner les familles. Et donc la MDPH à travers la communauté 360, elle fait le lien de tout cela pour apporter l'information, voilà, pour pas laisser les familles
les gens sur le bord du chemin. Oui. Laetitia Boisseau, cette émission ne pourrait pas avoir lieu si on ne parlait pas de la flamme paralympique, bien évidemment, avec ces Jeux Olympiques qui arrivent là à grande vitesse. Donc je vous laisse nous parler de cette flamme paralympique.
Alors déjà un petit peu d'histoire pour nos auditeurs. Oui. Cette flamme olympique, ces Jeux paralympiques, la flamme est allumée à Stockholm-Mandeville, en Grande-Bretagne, qui est le berceau en fait du sport paralympique. Cette flamme paralympique donc va avoir tout un périple et va traverser symboliquement le tunnel sous la Manche pour rejoindre la France à partir du 25 août. À son arrivée sur les côtes françaises, cette flamme se divisera en 12 flammes qui seront réparties aux quatre coins de l'Hexagone. Bien sûr, pourquoi 12 flammes? C'est l'énergie des 12 jours de fête et d'émotion pour ces Jeux paralympiques.
Donc c'est très symbolique. Oui.
Exactement. Qui auront lieu du 28 août au 8 septembre. Et il y aura près de 1000 éclaireurs qui vont diffuser toute cette merveilleuse énergie communicative autour des Jeux. Voilà. Et ces 12 flammes vont revenir en Île-de-France. Et quand elles vont revenir en Île-de-France, elles vont revenir en Val d'Oise, le troisième jour du relais de France, le 27 août prochain. Et pour aller à la rencontre de tous les Valdoisiens sur trois villes phares qui ont été choisies, La Roche-Guyon, que j'espère que tout le monde connaît, qui est labellisé le plus beau village de France, Cergy,
son château aussi,
plus exactement à l'Axe-Majeur, et à Louvre, oui, ce beau château. Donc voilà, tout ça c'est de mettre en lumière la volonté du département de promouvoir l'inclusion dans le sport. Voilà. Donc, les Jeux paralympiques débuteront le lendemain, c'est-à-dire le 28 août, comme je disais, du 28 août au 8 septembre.
Et vous pensez que ce rebondissement avec les Jeux paralympiques qui vont démarrer plutôt au mois d'août, parce que il y a beaucoup beaucoup de communication sur ces Jeux olympiques, et on a peur un petit peu que les Jeux paralympiques souffrent un peu de toute cette communication en amont pour les Jeux olympiques.
Moi, je dirais pas ça tout à fait, parce que je trouve que Tony Estanguet justement donne une impulsion très forte.
Oui.
Et déjà, on ne parle pas de Jeux olympiques, mais de Jeux olympiques et paralympiques. Et moi, je ressens vraiment cette énergie-là, et je pense que ça va être très différent pour ces Jeux. Et puis honneur à la France.
Bien sûr, bien sûr.
Promouvoir les Jeux paralympiques.
Bien sûr, et on comprend toute l'énergie que vous y mettez et bravo. Hein, mais voilà, je me disais, il faudrait pas que ces Jeux paralympiques souffrent de que les gens se disent ah ben voilà c'est fini, on n'en parle plus, alors que non, c'est pas fini. Il faudra encore plus peut-être en parler.
On en reparlera sur Radio Anguin.
Complètement, complètement. Alors Laetitia Boisseau, donc on comprend que le département est en soutien aux sportifs handisport de haut niveau. Nous avons reçu, d'ailleurs, moi j'ai reçu l'année dernière, il y a un an à peu près, plusieurs athlètes qui avaient été sélectionnés par le département. Donc c'est comment est née cette idée également?
Ben, naturellement, le département du Val-d'Oise est l'un des départements les plus jeunes de France.
Oui.
Est très dynamique, donc naturellement, on est là aussi pour la promotion du sport. Voilà. D'ailleurs, nous allons inaugurer très prochainement Atlantica,
oui.
La grande base de sport qui accueille notamment l'équipe américaine en base arrière. Et on a un équipement fabuleux. Donc en ce qui concerne les sportifs espoirs pour les Jeux paralympiques qui sont soutenus par le département, je voulais citer Meryl Loquette et Maud Lefort qui sont qualifiés pour les Jeux en para-badminton. Et nous avons aussi Gilles Bourret, maître d'armes au cercle sportif du Plessis-Bouchard, qui est formidablement sélectionné comme arbitre international de l'escrime en fauteuil.
Ouais,
ça,
ouais.
On peut vraiment le souligner
Et voilà, saluer.
On est très fiers.
Ouais, je comprends.
Et continuer à recevoir nos athlètes paralympiques, Jacqueline.
Et ce soutien du département aux sportifs handisport, ça passe par une charte départementale?
Tout à fait. On a voulu créer cette charte sport et handicap, hein, sous l'impulsion bien sûr de notre présidente Marguerite Gavecki, pour qui le sport est vraiment une priorité. Cette charte sport et handicap, c'est vraiment pour encourager les communes à promouvoir et développer la pratique sportive et l'accueil des personnes en situation de handicap à travers tout le Val-d'Oise, les clubs, etc. C'est vraiment lutter aussi contre les freins à la pratique sportive, hein, de toutes les personnes, quel que soit le type de handicap, qui veut faire du sport. Et vraiment, il y a vraiment trois objectifs. Cette charte sport et handicap va nous permettre désormais d'avoir un vrai maillage du territoire. Puisqu'on recense du coup aussi des associations sportives qui faisaient déjà, qui avaient déjà un grand pas vis-à-vis du handicap, mais ça ne se savait pas. Deuxièmement, c'est vraiment informer et communiquer et sensibiliser aussi les habitants à la pratique du handisport ou du sport adapté. Et c'est aussi accueillir les personnes situées en handicap dans le milieu associatif. Voilà. En soutenant notamment les associations sportives, hein, qui accueillent et qui accompagnent les personnes en situation de handicap à travers des subventions ou même l'achat de matériel spécifique. Donc, vous voyez, il y a vraiment un gros effort de fait.
Une vraie volonté, oui.
Et depuis 2022, nous avons déjà 12 communes qui ont signé cette belle charte départementale sport et handicap, qui sont les villes de Dermont, d'Éragny-sur-Oise, d'Ogny, de Garges-lès-Gonesse, de Taverny, Saint-Gratien, Argenteuil, Franconville, Deuil-la-Barre, Saint-Leu-la-Forêt, L'Isle-Adam et Beauchamp.
Bon, donc il vous reste quelques villes à...
Voilà, j'en profite sur ces ondes pour dire venez rejoindre cette belle charte du sport et handicap pour mieux faire connaître toutes les belles choses que l'on crée à travers le département du Val-d'Oise.
On espère que votre appel sera entendu et si nous on peut relayer cette information, on le fera avec grand, grand plaisir.
Merci Jacqueline.
Merci Laetitia Boisseau. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre?
Non, vive le sport et vive la France. Je crois que c'est une circonstance.
Merci infiniment pour ce panorama très complet de la MDPH et puis nous avoir fait partager votre investissement dans cette mission parce qu'on sent que vous êtes complètement investi par elle.
Donc, avec plaisir.
Bravo, merci à vous. Donc, j'ai la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rester encore quelques minutes. Donc,
oui, c'est promis, je reste encore quelques minutes.
on fait une nouvelle pause et puis je donne la parole à Audrey dans quelques minutes. À tout de suite.
différence qui pose sans qu'on leur dise, mais comme ils le pensent, parlez-moi de personnalité, d'originalité, d'idée.
Économie en direct et sur IDFM Radio. Et ce matin, après avoir évoqué les points forts de la MDPH et leurs portes ouvertes, je vais retrouver d'autres invités. Donc la MDPH est représentée par Madame Laetitia Boisseau, vice-présidente du département du Val d'Oise déléguée à l'autonomie. Et mes autres invités sont Audrey Kukurutz, ostéopathe et gérante de Kéo Santé, Élodie Defin, fondatrice de Orthodélo. Alors, on enchaîne avec vous, Audrey. Je vous laisse également vous présenter, Audrey. Voilà, c'est juste la petite punition du matin.
Je vais essayer de faire ça bien. Donc, je suis ostéopathe depuis 2011, issue d'une école en 5 ans. C'est clairement un métier passion depuis que j'ai 13 ans.
Oui. J'ai vu ça. Comment on peut avoir ce métier passion depuis 13 ans? C'était l'influence familiale?
Alors, pas du tout. Il suffit juste d'avoir très mal au dos.
Ah, d'accord.
D'aller voir un ostéopathe qui, en fait, est un magicien à mes yeux à cet âge-là. Oui. Et je me dis, trop bien, je vais faire magicien avec un alibi. Voilà.
Avec une baguette magique. Exactement. Formidable. Donc, ça ne vous a jamais quitté?
Jamais.
Oui. Donc,
jamais.
Vous avez fait vos études en relation.
Exactement. Donc, j'exerce ce métier depuis 14 ans maintenant. Et puis, en parallèle de ça, avec mon mari, on a créé Kéo Santé.
Oui.
Qui est donc une société qui détient plusieurs cabinets, justement pour lutter contre la désertification médicale. Et donc, les 6 cabinets sont implantés dans le Val d'Oise depuis 2017. Et on essaye de vraiment réunir des équipes qui sont tout aussi passionnées que nous.
Oui.
Et qui ont une complémentarité dans leur profession. Pour
donc,
vraiment,
des équipes de... Vous pouvez nous citer les spécialités?
Alors, il y en a 39.
Oui, oui, d'accord. On va pas citer les 39.
Non, voilà. En tout cas, il y a des psychologues, des psychopraticiens, des hypnothérapeutes, sophrologues, bien sûr, des ostéopathes.
Mm-hmm.
Non,
c'est
sur le site Kéo Santé, vous avez toutes les spécialités.
Alors moi, je voudrais que vous nous racontiez, c'est une anecdote, mais je voudrais quand même que vous nous racontiez comment ce groupe de Kéo Santé est né, puisque je crois que c'était au départ pas une évidence.
Non, pas du tout. En fait, je me suis installée, comme à l'époque, c'est-à-dire un temps plein, en libéral, avec une angoisse de payer mon loyer tous les mois. Et puis, je ne suis pas tombée sur des gens particulièrement toujours très francs, très
bienveillants.
Voilà. Et mon mari, 2 ans plus tard, s'est installé lui aussi en tant qu'ostéopathe. Et là, pour le coup, ça a été une catastrophe. C'était carrément une arnaque. Donc, on a réussi à s'en sortir tant bien que mal.
Le moins mal possible.
Voilà. Ouais. Et on s'est dit, on est passionné, on commence à connaître pas mal de choses, surtout dans ce qu'il faut faire et aussi de notre expérience ce qu'il ne faut pas faire. Donc allons-y, lançons-nous, on est jeunes. Donc
vous avez commencé avec un cabinet.
Exactement.
Et puis voilà, le succès amène le reste. Hein. Très bien. Mais écoutez, c'est que c'est bien géré en tout cas et que vous ne faites pas vous d'arnaque.
Non,
donc,
promis.
C'est ce qu'il faut le dire. Madame Laetitia Boisseau, ce genre de les spécialités dont parle Audrey, la MDPH fait appel à ces spécialités.
Alors, on ne peut pas dire que la MDPH fait appel, c'est pour les usagers.
Oui.
Mais effectivement, on connaît les associations, on connaît un petit peu, je dirais, toutes les différentes branches de soins et de soutien pour différentes pathologies. Effectivement, on est là pour conseiller, effectivement.
Bien sûr, parce que c'est probablement aussi des aides précieuses pour ces personnes handicapées, ces soins.
Ah oui, ce sont des aides précieuses, mais au-delà de ça, c'est les familles que nous avons au téléphone, des fois, elles sont assez désespérées et il faut trouver des solutions le plus vite possible. Donc on essaye d'y répondre.
Très bien, merci Madame Boisseau. Audrey, alors dites-nous, définissez-nous ce que c'est l'ostéopathie.
Alors l'ostéopathie, je précise quand même que pour chaque ostéopathe, je pense qu'on a tous notre sensibilité, donc on n'aura probablement pas tous la même définition, donc j'ai essayé vraiment de définir le plus justement possible mon métier. C'est une approche globale qui considère l'individu en entier. Nous recevons des personnes qui souffrent de douleurs du quotidien, les entorses, les torticolis, les lumbagos, mais aussi d'affections chroniques, les colopathies, les règles douloureuses, l'absence de règles aussi, l'infertilité, tout ça.
Ça, c'est important.
Voilà. Et après, de mon point de vue, une douleur s'explique toujours par 3 causes qui viennent s'imbriquer les unes avec les autres. Donc forcément, il y aura toujours la partie mécanique, les tensions au niveau du squelette. Ça, tout le monde connaît. Les tensions en lien avec un organe également, puisque chaque organe est connecté à la colonne par des muscles, des ligaments et aussi un nerf. Donc, c'est important de le noter qu'il n'y a pas que le cœur qui peut faire mal à l'épaule gauche. Chaque organe est capable de simuler une douleur mécanique et de l'entretenir, donc
d'accord,
la faire passer en chronique.
Oui, oui.
Et enfin, un point qui me tient particulièrement à cœur et qui n'est pas assez reconnu, c'est que chaque organe correspond à une émotion. Et donc, faire le lien entre le squelette, les organes et l'esprit, c'est la meilleure manière de prendre quelqu'un en charge en global,
d'accord,
pas juste aux symptômes.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est que une contrariété peut déclencher une douleur physique.
Je pense que tout le monde l'aura déjà ressenti.
Oui. Le mal de dos. Non. Et d'ailleurs, je crois que l'expression
j'en ai plein le dos.
Ben
oui,
est très,
tout à fait,
très parlante.
Au moins,
c'est clair.
On comprend.
Les maux de tête, par exemple.
Alors, les maux de tête, ça peut être. J'ai trop d'idées, tout fuse, etc. Après, l'organe qui lance souvent des maux de tête, c'est le foie. Et le foie, c'est la colère contenue.
Ah, voilà. D'accord.
Oh, c'est passionnant. Moi,
d'accord,
je pourrais y rester toute la journée.
C'est pas le fait de manger trop de chocolat.
Peut-être. Mécanique. On mange trop de chocolat, on inflamme le foie.
On mange trop de chocolat parce qu'on en a trop.
On mange trop de chocolat parce qu'on a été en colère, on le contient, bouffe. Et voilà.
Oui,
tout est lié. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que tout est lié. je distinguerai jamais une de ces trois causes.
C'est intimement imbriqué.
Toujours.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ce que je voulais dire à nos auditeurs et auditrices, c'est que donc vous nous avez dit que vous exerciez cette profession depuis 13 ans, donc avec passion, et que du coup vous êtes ostéopathe de famille entière, des arrière-grands-parents au dernier-né. Oui. Ça c'est formidable.
Ah, ça c'est une grande fierté. J'ai beaucoup de spécialités en fait dans l'allaitement maternel, les bébés, les femmes enceintes évidemment, le postpartum qu'on oublie beaucoup trop. Voilà.
Oui, oui.
Et il est vrai que quand les parents nous ramènent leur enfant et qu'ils se disent « Oh, il est trop bien maintenant !» Bah derrière, je vois le papa, la maman, les grands-parents. Et même parfois, j'ai la chance de rencontrer aussi les arrière-grands-parents. Et ça, c'est quand même...
C'est formidable.
C'est génial.
Formidable.
Ouais, ouais. Ça m'anime beaucoup,
oui,
en tout cas.
Oui, bah, oui, parce que c'est une vraie reconnaissance. Enfin, oui. C'est gratifiant. Oui.
Exactement.
Je comprends.
Très bien.
Voilà. Donc, vous exercez à Courbevoie.
Oui.
On aimerait bien que vous exerciez plutôt dans le Val d'Oise.
Je fais des domiciles dans le Val d'Oise les mardis et vendredis.
Très bien.
Voilà.
Bon, voilà. C'est... Et donc, si
attention, là. Sur les ondes.
Si on veut vous contacter, que faut-il faire, Audrey?
Réussir à écrire mon nom de famille est déjà un beau challenge.
Oui, enfin, écoutez, en tout cas, il sera mentionné dans le podcast de l'émission. Et
voilà.
Donc, c'est... Donc,
sur Doctolib, on me retrouve sur Google.
Facilement. Je vous propose qu'on fasse une courte pause également. Avec et puis je reviens vers vous dans quelques minutes. À tout de suite.
Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I see you on the other side. We can try all over again. When I almost love, it was almost love.
It was almost love. It was almost love.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Madame Laetitia Boisseau, vice-présidente du département du Val-d'Oise déléguée à l'autonomie, Audrey Kukurutz, ostéopathe et fondatrice des cabinets Kéo Santé, Élodie Defin, fondatrice de Orthodélo. Alors, Audrey, on a compris donc que vous exerciez avec passion, hein, j'insiste, mais on sent que vous êtes également très investie dans cette activité. Aujourd'hui, quels sont vos besoins, Audrey ?
Alors, du point de vue de l'ostéopathie,
ça va bien.
Bien qu'on soit un jour plus reconnu quand même.
Oui.
Mais bon, voilà. Je ne
vous
peux
voulez
rien
dire au niveau de la prise en charge. Hein.
Oui.
Oui, parce que c'est évidemment,
c'est
ce n'est pas conventionné.
C'est quand même dommage qu'il faille avoir une mutuelle à ce jour pour bénéficier de l'ostéopathie et que ça soit pas accessible à tous.
D'accord,
vraiment.
D'accord. Et donc vous avez il y a une fédération qui travaille, qui se non, ça
alors,
n'existe pas. Ben voilà.
Vous créez sujet un tout petit peu touchy.
Madame Laetitia Boisseau me dit que c'est.
Oui, en fait. Si on m'écoute comme ça, c'est bien. Je vais pouvoir enfin donner mon avis. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il n'y a pas qu'une fédération. Il y en a plusieurs.
D'accord.
Et qui sont toutes...
Qui sont en concurrence. Hein.
Oui.
Ah, très bien.
Du coup, c'est difficile de s'identifier dans un. Mmh. Et finalement, ils se plaignent qu'on soit très peu à adhérer.
Oui, mais au fond, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une union pour.
Bah oui, en fait, ce serait indispensable parce que sinon, on continue d'entretenir que l'ostéopathie, il y a de tout, malheureusement est trop vrai.
Oui.
Donc c'est pour ça que je défends mon métier avec passion, mais voilà, ce serait quand même bien qu'il y ait une union pour plus de reconnaissance.
Très bien, bah écoutez, on espère que votre message sera entendu. Et alors, je crois savoir que vous avez des jours à allouer dans vos cabinets, si vous voulez nous citer les villes.
Oui, donc les cabinets Kéo sont implantés à Deuil-la-Barre, Montmorency. Il reste des jours à Montmorency. À Herblay, c'est rempli. Soisy sous Montmorency, il reste des jours. Aubonne, il reste un jour.
D'accord.
Et Saint-Gratien,
très bien.
Il reste aussi quelques jours.
Très bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, j'espère aussi que le message va passer. Donc, se rendre sur le site Kéo Santé, voir les 39 spécialités qu'on peut y pratiquer.
Ils y sont tous.
Et si des thérapeutes indépendants cherchent un lieu pour exercer, ils peuvent se tourner vers Kéo Santé.
Exactement. Et j'insiste sur le fait que Kéo Santé, c'est vraiment une dynamique familiale aussi. On est tous là, les uns pour les autres. Mon mari et moi, on a un petit peu plus d'expérience dans le libéral, donc on est vraiment là aussi passionnés pour transmettre notre expérience et les aider à démarrer dans leur activité, parce que tous ceux qui sont chez Kéo font de très belles activités aussi qui manquent trop souvent de reconnaissance.
Très bien, voilà. Très bien. Merci beaucoup Audrey Kukurutz, ostéopathe et gérante de Kéo Santé. Merci de favoriser le respect et la bienveillance envers les patients qui ont besoin de vos soins. Et on sait aujourd'hui que beaucoup de pathologies passent par votre spécialité. Donc merci infiniment.
Merci.
On fait une nouvelle pause et un peu de musique avant de donner la parole à ma troisième invitée, Élodie Defin. À tout de suite.
I don't think they're ready for this. Dark child, I like that. I'm oh, 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 oh. Be the same, cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with me, I'll feel my dreams, and I'll be all you need.
Feels so right, girl.
I'm fine.
never would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity, I waited patiently. Girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
À l'instant sur EDFM Radio, c'est l'économie en direct et ce matin nous avons évoqué les portes ouvertes de la MDPH avec Madame Laetitia Boisseau, vice-présidente du département du Val d'Oise, déléguée à l'autonomie, puis un métier passion exercé par Audrey Kukurutz qui est ostéopathe et gérante de Kéo Santé, un groupe de cabinet dédié à des équipes pluridisciplinaires dans le domaine de la santé paramédicale. Et tout de suite, dernière ligne droite de cette émission avec vous Élodie Defin. Merci d'être à nos côtés ce matin, Élodie. Alors, Élodie, c'est votre métier de, enfin, orthodélo, c'est une vraie reconversion.
Ah oui.
Que vous avez aussi créé avec passion, je crois.
Ah oui.
Oui. Donc, je vous laisse vous présenter, Élodie.
Donc, effectivement, j'ai créé Orthodélo il y a maintenant un an et demi, suite à 25 ans de poste en ressources humaines. Et en fait, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé l'orthographe. Et notamment dans le BTP, j'ai décelé une vraie absence de formateurs en FLE, français langue étrangère, pour nos salariés d'origine étrangère. Et donc, je me suis spécialisée là-dedans. Donc, je suis effectivement formatrice en FLE. Je suis formatrice en orthographe et je suis également lectrice-correctrice.
Très bien.
J'ai tendance à dire que tout ce qui s'écrit se relie et que tout ce qui se relie se corrige.
C'est ça. Et donc, on a bien intérêt à faire attention à nos publications sur les réseaux sociaux parce qu'Élodie vous attend au tournant.
Mais il faut rester très bienveillant. Je les signale, les petites erreurs, mais toujours avec grande gentillesse.
Merci, Élodie.
C'est vrai. Alors, pour ce faire, Élodie, vous avez passé plusieurs certificats. Le certificat Voltaire, Robert, le certificat Le Robert de l'EFLC, École française de lecteurs-correcteurs. Et puis, vous êtes là, vous, lectrice-correctrice, ça y est, vous l'avez ce certificat?
Ah, oui, oui, oui.
Ah d'accord, parce que j'étais restée sur la précédente
l'année dernière.
Présentation.
Voilà. Non, c'est bon.
Bon, aujourd'hui, vous venez aussi nous parler d'ateliers hein, que vous faites régulièrement, dont un qui va avoir lieu, je crois, demain.
Jeudi.
Jeudi 23. Oui, jeudi 23.
Jeudi 23,
oui. Je vais aller plus vite que la musique. Et donc, expliquez-nous cet atelier, parce que moi, je ne pourrais pas y participer, mais à mon grand regret, mais j'adore ce que vous allez proposer.
Alors, effectivement, j'ai cette chance, au-delà de dispenser des formations en groupe ou en individuel chez les employeurs en général, j'ai la chance de pouvoir animer des ateliers. Et pour ça, j'ai la chance d'habiter près de Magny-en-Vexin, qui est une ville qui bouge beaucoup. Notamment, donc en fait, en 2016, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Élite Vexin, qui a eu quelques années un peu de flottement avec le Covid, évidemment, qui a repris de plus belle suite au Covid, aux années Covid. Et c'est une association qui regroupe des femmes entrepreneuses.
Oui.
Exclusivement des femmes, une fois par mois, de manière à sortir de l'isolement, entrepreneuse ou porteuse de projet d'ailleurs. Moi, la première fois que j'y suis allée, j'étais en train de me dire, enfin, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Comment je peux le faire? Comment je peux me lancer? Comment je peux ne pas me lancer seule, même si j'exerce seule? Voilà, comment je peux me sentir entourée? Et l'année dernière, donc ça c'est de 2016, et l'année dernière, en 2023, il y a eu un tiers lieu qui s'appelle le Cowork Vexin, un espace de coworking qui a ouvert en mars 2023. Et dans ce grand coworking, Karine Bertolino, qui est donc la directrice de ces lieux, est très très réseau.
Oui.
Et donc elle organise un tas de choses. Donc elle a déjà organisé un atelier cuisine, un défilé de mode, des séances photos, des expositions de cartes postales anciennes. Pour ça, elle a fait installer 50 mètres de simèse,
à
laquelle il est très facile pour n'importe qui d'afficher des affiches, des tableaux.
Ah, oui.
C'est très simple. Elle va bientôt faire venir une photographe qui va exposer à partir du 22 juin, mais on n'a pas encore droit de dire le nom. Elle se le réserve pour son teasing. Et puis il y a également eu des ateliers parents-enfants, d'une soirée gospel, enfin c'est très très varié.
Oui, c'est très varié.
Ouais. Et donc dans ce lieu, pour le faire vivre, elle a créé une association qui s'appelle Entreprendre en Vexin, qui est ouvert à tous les entrepreneurs, hommes, femmes, solo ou pas, et qui invite chaque entrepreneur du Vexin français et du Vexin normand de pouvoir animer un atelier, une exposition, enfin en tous les cas de prendre possession de ces lieux pour le faire vivre, créer du réseau, créer des rencontres, du partage, et voilà. Et donc elle m'a proposé de faire un atelier. Et donc évidemment j'ai dit oui avec grand plaisir, et je leur ai demandé quel sujet pouvait les intéresser, parce qu'on parle souvent des participes passés, mais je vais quand même le faire, hein, mais
c'était pas la
demande première. Aujourd'hui, leur problématique à ces dames, c'était essentiellement de la féminisation des noms de métiers. Est-ce qu'on dit Madame le maire, Madame la maire, Madame la mairesse? Et en fait, quand elles font des écrits, elles se posent toujours la question. Donc, on va essayer de réfléchir ensemble à savoir quelle est la bonne pratique, tant à l'oral qu'à l'écrit, parce qu'elle peut être un peu différente.
Laetitia.
Alors, en tant qu'élue, je ne veux pas entendre la mairesse, puisque la mairesse, c'est la femme du maire. Et en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, chères auditrices, chers auditeurs, mais ce n'est pas très joli.
Oui, c'est vrai. Ça ne sonne pas très bien. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai reçu il y a deux mois Madame le maire de Roissy, et toute la première partie de l'émission, je disais Madame la maire, Madame la maire. Puis pendant une pause, je lui dis à propos, on dit Madame la maire, Madame le maire. Elle dit non, on dit Madame le maire. Je dis oh là là, bon voilà. Donc j'ai bien retenu la leçon.
Voilà, à Tavernier, on dit plutôt Madame le maire également.
Aussi, oui.
Voilà, donc on va réfléchir ensemble sur ces pratiques, et puis on va voir un peu ce que nous dit un peu le dictionnaire Le Robert et le Larousse, que je mets souvent en compétition pour voir un peu quelles sont les bonnes pratiques à l'écrit en tous les cas, parce qu'après à l'oral on peut se permettre des fois quelques déviantes en fonction des affinités. Oui.
On peut avoir une idée quand même de votre point de vue sur la féminisation de ces mots,
alors,
ces métiers.
Je ne voudrais heurter personne. Pourtant, j'ai fait partie de groupes femmes de la Fédération du bâtiment pendant des années. Enfin, voilà, je suis très femme. Mmh. Mais ce côté, ce wokisme, il faut tout féminiser, il faut toujours mettre les femmes à l'honneur, il faut des quotas de femmes, ça a tendance à
m'épiler
un petit peu,
parce que
la femme n'a pas besoin de ça pour être reconnue, à mon sens. Mmh. Maintenant qu'une femme touche le même salaire qu'un homme pour un poste égal, c'est une évidence.
On se pose même pas la question.
Maintenant qu'il y a un quota de femmes, qu'on soit absolument à 50% de femmes dans des grandes structures, s'il n'y a pas de femmes dans la structure qui ont les compétences pour faire tourner cette structure, pourquoi c'est mon point de vue, il n'engage que moi.
Disons qu'il faut, si je peux me permettre, puisque là il est question de parité, la parité, il faut la prendre comme un outil, il ne faut pas la prendre comme une fin en soi. Voilà, comme un outil. Et peut-être que de faire venir des femmes dans des structures, ça va changer le paysage un peu général. Donc voilà, c'est tout l'intérêt. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'arc-bouter.
Je pense qu'il y a quelques années, il y avait effectivement besoin de montrer aux hommes que les femmes existaient. Je pense que les hommes aujourd'hui l'ont compris.
Ouais.
Et je pense que c'est pas la peine de forcer. Alors il y a encore un petit peu de travail peut-être, mais je pense quand même malgré tout que l'ouverture se fait et qu'elle peut se faire en douceur et sans braquer. Mais encore une fois, ceci n'engage absolument que moi.
Et puis il y a des métiers qui supportent mal la féminisation. Moi j'ai eu l'occasion dans ma vie de connaître une personne qui entraînait des chevaux, donc qui était entraîneur de chevaux. Mmh. Et si on avait dû dire entraîneuse, voilà, ça crée un malaise. Hein.
Entrepreneuse.
Voilà.
Alors entrepreneur. Personnellement, je trouve ça absurde. Enfin, en plus, à l'oral, ça ne s'entend pas. Et donc, à l'écrit, je ne vois pas l'intérêt. Mm-hmm. Et entrepreneuse, c'est pareil. Une femme entrepreneuse, c'est pas très classe.
Alors, cet atelier orthographe aura lieu à quelle heure ou dites-nous tout.
Effectivement, cet atelier aura lieu au Cowork Vexin, donc route de Rouen à Magny-en-Vexin, à partir de 19h. Mm-hmm. Il dure, on va dire, une heure, et ensuite un petit apéro partage, histoire de faire connaissance, encore une fois, et il est ouvert, pour le coup, Entreprendre en Vexin est une association qui est ouverte aux hommes, aux femmes, entrepreneurs, porteurs de projets, et même éventuellement il peut être aussi intéressant que lors de ces ateliers viennent des familles,
bien sûr,
ou en tous les cas des conjoints, parce que moi, enfin, je suis mariée à un entrepreneur et pendant très longtemps, avant de travailler avec lui, je me suis dit mais pourquoi il rentre si tard, pourquoi il rentre si fatigué, pourquoi il rentre énervé. Enfin, voilà. Et en fait, la vie d'entrepreneur n'a rien à voir avec une vie de salarié. Faut quand même bien l'admettre. Et du coup, ça permet aussi aux conjoints de prendre un peu conscience de
la réalité.
De la réalité des faits, effectivement. Mmh. Encore une fois, là, j'aborde l'orthographe sous un aspect très ludique, très convivial. Ce que j'essaye de faire pendant mes formations, effectivement, où on part généralement d'un jeu, ou alors je fais faire des exercices.
Oui, c'est sous forme ludique magistrale, ennuyeuse en tout cas.
Mais non, parce que, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Non, parce que je forme principalement des salariés, je ne travaille pas avec les enfants, ou alors des grands enfants, comme au CFA d'Hermont, par exemple, avec qui on est en train d'expérimenter quelque chose qu'on aimerait développer l'année prochaine davantage. Mais les salariés qui ont des difficultés avec l'orthographe, souvent, ils ont été malmenés petits à l'école. De toute façon, t'es nul, tu feras jamais rien de ta vie, etc. Et aujourd'hui, ils peuvent être menuisiers, maçons. En tous les cas, ils travaillent avec leurs mains, ils travaillent très bien, ce sont des vrais professionnels. Et malgré tout, l'orthographe leur pose défaut. Pas de souci, on y travaille. Mais si, de nouveau, j'arrive avec ma règle, en disant, tends les doigts, je vais te taper dessus, ça n'a aucun intérêt. Et pour certains, c'est même un traumatisme.
Oui, puisqu'il y avait à une époque, je crois, le zéro en dictée empêchait le passage en sixième. Hein, enfin, donc c'était très lourd. Ça peut être traumatisant, en effet.
Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on retire les dictées. Alors, il paraît qu'on va les remettre, tant mieux. Mais ce qui m'agace un peu dans l'orthographe d'une manière générale, c'est qu'on part quand même sur le... Comme pour beaucoup de choses, on travaille surtout sur le nivellement par le bas. C'est-à-dire que comme pour éviter que des gens aient zéro en dictée, on enlève les dictées.
Non, c'est
pas tout à fait comme c'est ça qu'il faut prendre la chose, à mon avis.
C'est pas la solution.
Et donc, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, avec mes petits bras et mes petites jambes, j'essaye de parcourir les entreprises du Val d'Oise et éventuellement du nord, des Yvelines, de l'Eure, voire de l'Oise, pour essayer de...
De prêcher la bonne parole, ça, on va dire.
Exactement.
Absolument. Alors, Élodie, pour reprendre cette conversation avec Entreprendre en Vexin, vous vouliez exprimer des besoins pour cette association. Quels sont-ils?
Oui, cette association, effectivement, la devise du cowork à sa création, c'était « Créons du lien à manier en Vexin ». Et donc, Entreprendre en Vexin... s'englobe dans cette dynamique. Très clairement, l'idée, c'est d'inviter les entrepreneurs, les porteurs de projets ou les artistes, quels qu'ils soient, non pas professionnels.
Les particuliers, finalement.
Voilà, des particuliers à pouvoir transmettre leurs connaissances sur des thématiques d'entrepreneuriat, de culture ou de numérique. Voilà, ce sont les grands axes donnés par cette association. Et il y a, si l'on souhaite également, la possibilité de privatiser totalement cet espace.
D'accord.
Il y a même une boutique éphémère. C'est-à-dire qu'un artiste, je ne sais pas, un tapissier qui travaille chez lui, etc., qui n'a pas de pignon sur rue, peut louer pendant un week-end, une semaine, un mois, deux mois, la boutique éphémère, exposer ses travaux, et puis faire de la publicité sur les réseaux, etc., de manière à ce qu'on vienne voir ce dont il est capable. Donc c'est une vraie ouverture sur l'extérieur, et ça fait du bien quand on est solo entrepreneur.
Et alors, je crois que vous vouliez aussi un petit peu lancer un appel, dire que si des auditeurs ou auditrices voulaient aider cette association, ils peuvent, participer à l'achat de matériel informatique ou vidéo, audio, ou prêter, donner, je sais pas, enfin, quelle solution vous proposez?
Absolument. Donc, il y a moyen d'aider l'association. Il pourrait effectivement y avoir davantage. Alors, le coworking est très très bien équipé. C'est un endroit très lumineux, très idyllique vraiment pour travailler. Moi, j'y vais très très souvent. Il y a déjà beaucoup d'ordinateurs pour travailler, mais il pourrait y avoir des outils informatiques et notamment des outils audio pour enregistrer des podcasts, etc., pour pouvoir travailler directement dans ces locaux-là et continuer de se faire connaître. Tous les dons seront les bienvenus, mais au-delà de ça, l'idée, c'est que les entrepreneurs du Vexin français et normand adhèrent à cette association ou, à défaut, participe aux activités que l'association propose. Par exemple, mon atelier, c'est 5 euros.
C'est ça.
C'est vraiment histoire de participer à la vie de ce tiers-lieu. Mais on a beaucoup de tiers-lieux dans le Vexin. Je crois qu'il y en a 7. Donc il y a vraiment de quoi faire. Là, je vous parle du cowork parce que c'est elle qui initie le mouvement. Mais très clairement... il y a moyen de développer ce type d'activité qui est, je suis très très réseau et je pense vraiment que le réseau fait avancer les choses, donne des idées aux entrepreneurs et surtout les sortes de l'isolement. Travailler chez soi, c'est bien un moment.
Oui, parce que ça reste quand même le souci majeur, cet isolement d'entrepreneurs.
Oui, ça peut être
surtout les auto-entrepreneurs, ils sont seuls, ils n'ont pas à part leurs clients, ils ont vraiment besoin d'échanger.
Et ça permet non seulement de se faire connaître et donc de développer sa clientèle, mais au-delà de ça, ça permet de s'épanouir personnellement. Absolument.
Pardon. Et donc, pour Orthodello, vous voulez aussi nous parler de vos besoins?
Pour Orthodello, j'appelle les entrepreneurs qui ont donc des salariés d'origine étrangère ou pas, et qui constate des difficultés en orthographe ou par rapport à l'apprentissage de la langue française, je les invite déjà à me contacter, évidemment, par votre intermédiaire ou sur les réseaux. Hein, oui. Je suis sur LinkedIn et il y a une page Orthodélo sur Facebook. Mais au-delà de ça, je les invite réellement à réfléchir à l'approche qu'ils ont par rapport à l'orthographe. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas une marâtre, je ne frappe personne. Je veux vraiment rester dans la bienveillance, dans l'accompagnement, et je veux vraiment que les personnes. Alors, on n'apprend pas une langue en 20 heures, hein, qu'on soit bien clair. Mmh. Ces formations sont prises en charge. En partie, en tous les cas, par les OPCO.
Oui.
Donc, il ne faut donc, absolument la pas hésiter à demander un devis, à le présenter à l'OPCO et à attendre un peu le montant de la prise en charge avant de se décider. Mais en tous les cas, il ne faut pas que ce soit un frein. Et c'est réellement important. Le fait qu'un salarié d'origine étrangère parle bien français, l'écrive, ça va faire quoi ? Ça veut dire qu'il va bien comprendre les consignes qui lui sont données par son supérieur. Par conséquent, ça va réduire les risques au niveau accident du travail.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais, parce que les consignes seront entendues et comprises et donc respectées. Ça va permettre aux salariés également de s'intégrer dans le paysage entrepreneurial, mais également dans la société française. Et a priori, il devrait avoir un minimum de reconnaissance pour son employeur. Mmh, mmh. Donc, rester fidèle à son employeur, et notamment dans le BTP ou dans la restauration, ce sont des domaines qui auraient besoin de ces formations.
De ce genre de...
Et ce sont des domaines où la fidélisation des salariés est un vrai problème. Donc je pense que ça peut être une option.
Ça peut être un plus gagnant-gagnant. On est bien d'accord. Donc Élodie, pour vous contacter, que faut-il faire ?
Mais je vous dis, les réseaux sociaux. J'ai une page Orthodélo. Orthodélo, ça veut dire orthographe d'Élodie.
Oui.
Mais pour éviter les accents, parce que ça a été trouvé par ma Benjamine qui avait à l'époque 12 ans. Pour enlever les accents qui sont jamais simples dans une adresse mail, etc. On a juste mis deux L. Donc Ortho, tout attaché, Orthodélo.
Voilà.
Mon site
joli,
internet est en réflexion.
Un petit peu italien.
Ça change. Oui, c'est joli. Et puis voilà, mon site internet est en pleine réflexion, donc ne pas vous y fier. J'ai une chouette entreprise de communication qui s'appelle Pardalis qui y travaille. Mais par contre voilà, et sur LinkedIn aussi, je suis très présente.
Très bien. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà pour vous trois. Autant d'informations qui se retrouveront bien évidemment sur les réseaux sociaux et sur le podcast de la radio. Merci Élodie Defin pour votre engagement. On retiendra votre souci de nous sensibiliser à la richesse de notre langue, qu'elle fait partie de notre patrimoine et qu'il faut la préserver envers et contre tout. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès pour cet atelier qui a lieu donc jeudi.
Je vous tiendrai au courant et merci beaucoup pour l'invitation.
Je vous en prie Élodie. Mais merci à chacun d'avoir été les invités en direct.
Merci.
Alors, on a l'habitude juste de terminer l'émission avec quelques mots de conclusion. Alors, je vais commencer avec Audrey. Vous aurez le mot de la fin, Laetitia. Audrey, un petit mot de conclusion avant de nous quitter.
Eh bien, merci pour l'invitation déjà, parce que c'était une première expérience très enrichissante et de très belles rencontres.
Merci à vous de nous avoir aussi fait partager votre métier passion. Merci. Élodie.
Eh bien, merci Jacqueline donc pour l'invitation et pour votre bienveillance constante. On se sent bien dans ce salon et donc les entrepreneurs du coup je vais également lancer un appel là-dessus, les entrepreneurs du Val d'Oise en général, si vous avez besoin de vous faire connaître, contactez Jacqueline également et vous serez bien reçue.
Avec grand plaisir, merci Élodie pour cette promotion. Madame Laetitia Boisseau, un petit mot de conclusion.
Merci Jacqueline pour cette très aimable invitation. Je remercie sur le plateau Audrey et Élodie. Et puis surtout, venez nombreux aux portes ouvertes de la MDPH ce vendredi 24 mai de 13h30 à 17h30. Et je rappelle pour vous inscrire mdph.valdoise.fr.
Très bien. Une adresse que je rappellerai également sur mes publications. Merci à toutes les trois. Et puis merci Christophe pour la technique. Merci à vous tous, auditrices et auditeurs, auditeurs de nous avoir suivis. Cette émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez son podcast sur le site et l'appli de IDFM Radio. Vendredi prochain, nous retrouvons des intervenants de l'Université de Cergy-Pontoise, mais aussi une amie à vous, chère Élodie. Donc, oui. Je crois qu'on va reparler du coworking.
Vous allez retrouver, oui, vous allez parler des vaccins pour le coup.
Très bien. Alors à vendredi, d'ici là, bonne journée et belle semaine.